va écouter Françoise Vergès, qui est membre de l'association Décoloniser les Arts, commissaire indépendante et autrice. Elle a été présidente du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage et titulaire plus tard de la chaire Global South, ici même à la FMSH. Elle a signé en 2017 « Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme », qui part du cas emblématique des campagnes d'avortement et de stérilisation forcée à La Réunion au tournant des années 70, afin d'examiner plus généralement les politiques de contrôle racialisé du corps des femmes. Figure centrale de la pensée décoloniale en France, elle est également l'autrice en 2019 de « Un féminisme décolonial » qui est paru aux éditions La Fabrique.
Merci Mathieu et merci à Christine Chevalon et Mathieu Renaud de m'avoir invitée. Je ne suis pas, commencer par ça, historienne des Caraïbes, d'accord ? Donc n'attendez pas de moi quelque chose. Ma question, plutôt, quand Mathieu m'a proposé de venir, de contribuer, c'était en lien d'ailleurs avec le livre dont il a parlé en 2017, c'est une question d'ailleurs qui continue à m'intéresser, c'est-à-dire comment le capitalisme résout la question de reproduction sociale sous l'esclavage et après l'esclavage. C'est-à-dire comment assure-t-il la reproduction d'une force de travail racialisée ? Autrement dit, le rôle et la place des femmes noires dans la reproduction, sous l'esclavage et après. Donc voilà. Donc le fil de théorique, c'est le capitalisme racial dont Catherine en a parlé ce matin et aussi d'ailleurs Mathieu a fait plusieurs présentations dans Période, je pense. Et la question, évidemment, le marxisme et ses limites sur cette question. Et évidemment, les théories féministes autour de la reproduction, que ce soit le féminisme européen du tiers-monde, le féminisme noir des Amériques, ou le féminisme postcolonial et décolonial. Donc, pour parler de la reproduction sociale après l'esclavage, ce qu'on appelle la reproduction, c'est-à-dire faire des enfants, je vais dire deux mots de la manière dont elle a été organisée sous l'esclavage et comment donc on ne peut pas penser la production, la question de la production ou de l'accumulation de richesses sans penser la question de la reproduction. Parce qu'il faut quand même bien des corps qui fassent travailler. Donc Silvia Federici, elle parle souvent de deux chaînes de production, à l'usine et à la famille, mais c'est un point de vue, ça reste un point de vue eurocentré. Donc moi je m'intéresse un peu plus à plus largement. Donc la question de la traite et l'esclavage, avant d'en venir à la question du post-esclavage, la traite c'est l'organisation à un niveau industriel et global d'une force de travail mobile, racialisée et genrée. On sait que c'est à peu près 2/3 d'hommes pour 1/3 de femmes pendant très longtemps, pendant à peu près toute la traite. Donc c'est vraiment là, il y a une organisation, il faut faire bouger les gens, il faut faire bouger les corps. Et c'est une chaîne qui part de l'Afrique, du continent africain, jusqu'à la plantation. Et c'est la reproduction, donc la production pendant la traite est assurée par les femmes africaines. C'est vraiment le rapt de leurs enfants. Donc le ventre des femmes africaines est un capital dans cette chaîne de la production de la force de travail à partir de la traite. Donc c'est pas, en général on parle des corps qui arrivent dans les baraques et qu'on met dans les bateaux. Ces corps, ils ont été quand même produits par quelqu'un. Donc la question donc, du corps des femmes noires en Afrique, des femmes africaines qui sont déjà un capital dans cette chaîne de production et de reproduction. Et donc le continent africain est la source de la reproduction. Elle doit donc réintroduire le continent africain dans cette chaîne de production-reproduction. Donc ça, c'est la première chose. Dans les plantations, donc ça dure quand même plusieurs siècles. Pendant plusieurs siècles, les enfants des femmes africaines sont raptés et déportés. En général, les négriers ne capturent pas des bébés. Donc, il y a aussi le travail, finalement, de transformer un bébé en une personne déjà pensante, marchande, pouvant travailler, se fait en Afrique. On ne capturait pas des bébés de 2 mois ou 4 mois. Donc, c'est cette question est pour moi très importante. Ensuite, dans la plantation, on peut voir deux grandes politiques qui sont, évidemment, c'est un peu résumé, mais qui ne sont pas non plus fixes, qui vont connaître chacune des aménagements, parfois à cause de changements géopolitiques. Mais en gros, on peut distinguer ces deux grandes politiques. Alors la première, qui a été appelée le slave breeding industry, l'industrie donc de la je ne sais pas comment on dit breeding, l'élevage. Donc, évidemment, là, je pense au livre de Constance and Ned Sublette. Il parle comment, évidemment, la question de l'organisation de la propriété des êtres humains. Comment assurer cette propriété ? Les auteurs, d'ailleurs, décrivent un conflit qui est très intéressant entre la Virginie, qui était appelée la « mother of slavery » en l'état de la Virginie, la mère de l'esclavage, et la Caroline du Sud. Parce que en Virginie, assez tôt, il y a la reproduction locale, et la Caroline, par contre, c'était le plus grand état importateur d'Africains capturés. Donc, quelle stratégie allait primer ? Il y a vraiment une tension, un conflit entre ces deux états. Et c'est la politique de la Virginie qui va l'emporter quand Thomas Jefferson va interdire en 1808 la traite avec le continent africain. Donc à partir de là, il va avoir énormément donc, de reproduction locale et de traite intra entre les États des États-Unis. Et bon, même s'il y a quelques-uns qui viennent des Caraïbes, mais enfin c'est quand même énormément là. Avec donc toute l'histoire entre le Nord, le Sud, le Canada, etc. Désormais, les États esclavagistes vont se lancer dans la reproduction de la force de travail et la Virginie va être d'ailleurs un des États pionniers de cela. Et pour des historiens, d'ailleurs, ils vont aussi voir le fait que la Virginie est au cœur de la lutte pour l'indépendance, comme en fait, pas simplement pour l'indépendance de l'Angleterre, mais comme l'Angleterre faisait payer, taxer l'importation des esclaves, il y avait aussi cette nécessité de rompre avec l'Angleterre pour pouvoir assurer soi-même son marché, on peut dire sa traite. Donc, la Virginie va être un état pionnier et sa richesse va reposer sur la reproduction des esclaves. Jefferson dira d'ailleurs à Washington, je cite, « Grâce au taux de naissance des esclaves, la Virginie a pu augmenter son capital annuel de 4%. » En 1860, écrivent les Sublettes, la valeur marchande des esclaves pour tous les États-Unis s'élevait à 4 milliards de dollars. C'était beaucoup plus que tout ce qui était sur l'or et l'argent qui circulait aux États-Unis. Et c'était même plus important que la valeur des terres cultivées, de toutes les terres cultivées dans le sud des États-Unis. Autrement dit, la reproduction va contribuer à l'accumulation de la richesse, hein, puisqu'on n'a pas, c'est pas simplement la question du travail des Africains et des Africaines dans les champs, mais la question du capital. Les corps sont esclavagisés, entrent effectivement dans le système bancaire comme source de crédit et d'emprunt. Avant même leur naissance, les enfants des femmes esclaves représentaient un capital contre lequel le propriétaire pouvait spéculer ou emprunter. Hein. Choses à venir. Et le viol des femmes esclaves était systématique. On parle de, après 6 à 8 semaines après avoir accouché, elles étaient violées de nouveau pour retomber enceinte et pour donc produire. Dans les archives, on voit des femmes qui ont 20 ans et qui ont déjà eu 12 à 13, 14 maternités. Donc, pour moi, c'est aussi comment le viol des femmes noires entre dans l'histoire comme élément dans l'analyse de la reproduction du capital et dans l'analyse de l'accumulation des richesses. Ce n'est pas un phénomène à part, c'est un phénomène important de la reproduction sociale de la population esclave. L'autre grande politique, donc j'ai toujours dit, c'est toujours un peu général, c'est l'importation. Et ça, ce sera les colonies françaises et anglaises, hein, dont celles des Caraïbes, qui vont plutôt reposer sur l'importation constante d'esclaves. Peu de reproduction locale. Ce qui fait qu'il y a des plantations, d'ailleurs, où le déséquilibre, on peut dire, entre femmes et hommes est très, très important. Cependant, au fur et à mesure que le mouvement abolitionniste européen grandit, les États commencent, et puis les abolitionnistes poussent à ça, les États commencent à se soucier de la reproduction d'une force de travail qui doit rester racialisée et précarisée. Et dans Catherine Bow, dans son livre « The Politics of Reproduction, Race, Medicine and Fertility in the Age of the Abolition », montre comment l'esclavagisme anglais cherche déjà avant l'abolition de l'esclavage à résoudre cette question dans ses colonies des Caraïbes. Leurs débats et décisions vont contribuer d'ailleurs à une politique de gestion de population, hein, qui prend donc le fait, ce que disait aussi Catherine, ce qui se passe à la colonie, ce qui se passe en Europe, parce qu'en Europe aussi, il y a un début de gestion de population, de contrôle des populations, avec les registres qui se mettent en place dès le XVIIe, XVIIIe siècle. Donc on voit là, si vous voulez, cette politique de gestion des populations dans les colonies, qui va naître, comment ça va naître, comment on va aller, est déjà important pour les abolitionnistes. Sous la pression d'ailleurs des abolitionnistes, les gouvernements anglais vont établir au début du XIXe siècle de nouvelles stratégies dans ces colonies caribéennes pour contrôler la sexualité et la reproduction. Des maternités, enfin ce qu'on peut appeler des maternités, hein, c'est-à-dire quand même le fait que les femmes esclaves n'accouchent plus dans les champs, quoi, vont être établies dans les plantations anglaises. La durée de l'allaitement va être aussi contrôlée, hein, qu'elles n'allaitent pas trop longtemps, puisqu'il faut qu'elles se remettent au travail. Il y a aussi la maternité va être encouragée financièrement, puisque les femmes esclaves refusaient, résistaient à la maternité en avortant ou en refusant de donner naissance. Donc là, on va leur donner on va les encourager à reproduire. Il y a donc les médecins, les missionnaires et les propriétaires de plantations contribuent à tout ce débat et à trouver les politiques qui vont déjà donc remplacer la traite par la reproduction, puisqu'on sait que d'abord les abolitionnistes vont se focaliser sur l'abolition de la traite avant l'abolition de l'esclavage, donc il faut quand même assurer la reproduction locale. Donc les femmes, le ventre des femmes continue à être un capital, hein, et on voit aussi d'ailleurs un début de professionnalisation du travail des sages-femmes, des femmes noires qui assuraient la naissance, qui deviennent des sages-femmes, qui vont être beaucoup plus contrôlées. Donc on a tout un travail de contrôle qui s'installe, qui est très important, qui est différent de sous le moment de l'esclavage. On passe à un passage déjà à un contrôle différent. Donc dans le moment post-esclavage ou post-esclavagiste, pour suivre l'argument que faisait Jean Pinel, comment perpétuer l'organisation au niveau mondial d'une force de travail qui va continuer à être mobile, racialisée et genrée? Puisqu'effectivement, dans le post-esclavage, ça sera encore une majorité d'hommes qu'on va faire circuler, que les États vont faire circuler d'une colonie à l'autre. Hein. C'est toujours encore 2/3 d'hommes pour 1/3 de femmes, plus ou moins. Donc, déplacement organisé, c'est un déplacement organisé par les États impérialistes à l'époque, de millions d'Indiens, de Chinois et toujours, même si en moindre nombre, d'Africains et de Malgaches, d'une colonie à l'autre. Hein, on va les envoyer ici et là. C'est d'ailleurs quelque chose qui a commencé avant l'abolition de l'esclavage, hein, on le sait. En fait, en 1826, par exemple, c'est la première arrivée d'Indiens à l'île de la Réunion, déjà, alors que l'esclavage est aboli en 1848. Donc, on voit déjà tout ça se met en place. Hein. Évidemment, et puis le demi-million d'Indiens qui vont être amenés dans les Caraïbes. Mais aussi, il y a des Chinois, il y a aussi des Mozambicains, il y a même des Kanaks qui vont être envoyés dans des colonies. Enfin, il y a une circulation énorme de populations sud-sud, de colonie à l'autre, d'un empire impérialiste à l'autre. Et d'ailleurs, c'est très présent dans la littérature et dans la musique, hein, ces déplacements. Si vous connaissez un petit peu les mémoires, notamment, bon, moi, je connais un peu plus l'océan Indien, mais enfin, on a même... excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Mais là, je pense au roman plus récent de Natacha Appanard, là, Les rochers de poudre d'or, ou évidemment, Un océan de pavots d'Amitav Ghosh, qui raconte ça. Et en fait, il y a d'énormes donc, déplacements. Il y a aussi de nouveau les banques et les assurances qui sont engagées dans ces déplacements, comme elles l'avaient été sous l'esclavage dans les déplacements. Il y a des bateaux négriers qui sont reformatés hein, pour transporter ces nouvelles populations, qu'on envoie travailler dans les mines, toujours aussi dans les plantations, mais aussi dans les armées, pour servir dans les armées. Ça va être important. Puis pour construire les grandes villes, les ports qui se construisent dans la période post-esclavagiste. Le taux de mortalité sur ces bateaux va être d'ailleurs important, et même dans les plantations, hein, on dit que le taux de mortalité d'un bateau de travailleurs engagés, puisqu'on les appelait ainsi vers les Caraïbes, était à peu près de 17%. Alors, sur la question des femmes et des hommes, quand même, à un moment donné, parce qu'il y avait un tel déséquilibre, l'Angleterre va imposer un taux de 25% par cargo, par navire, donc de femmes, mais en fait, ça va être très peu observé et on peut avoir une proportion, puis ensuite, ils imposent une proportion de 40 femmes pour 100 hommes. Donc, on voit aussi quelle peut être la situation des femmes dans des plantations où elles se retrouvent en une très grande minorité par rapport à des plantations où domine vraiment un énorme proportion d'hommes. Donc, on a ces deux grandes politiques, on peut dire, de reproduction, hein. Sous l'esclavage, et après l'esclavage, c'est toujours quand même là, après l'esclavage, c'est sur l'importation que ça va reposer. Il va y avoir très peu de reproduction locale, on peut dire, de gestion et de poussage. La reproduction, donc, est toujours assurée par les femmes ailleurs, hein, du continent indien, chinois ou africain. Et dans les colonies, quand il y a des femmes, elles sont partagées par les hommes sur les plantations. Il y a un travail dans l'océan Indien de Michel Marimuto Berlet qui montre que, si vous voulez, les hommes se regroupaient à 4, 5 pour acheter une femme, qui leur servait ensuite de bonnes domestiques, d'objets sexuels, enfin tout. Et donc, ça continue donc énormément. Donc, cette reproduction m'intéressait, c'est-à-dire que comment, évidemment, le capitalisme a organisé toute cette reproduction. Au même moment, d'ailleurs, de ce 19e siècle, ça on peut le voir dans l'ouvrage de Bill Schwartz, « The White Man's World », c'est aussi l'énorme déplacement, l'énorme migration d'Européens vers les colonies. Hein, des millions d'Européens partent aux États-Unis, au Canada, en Argentine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. Et ce que appelle donc Bill Schwartz, ils construisent le monde de l'homme blanc dans ces pays. Hein. Ils effacent toute population, évidemment, indigène, et ils construisent. Ils vont être, par exemple, ce que montre Bill Schwartz, c'est des champs qui vont être extrêmement importants aussi dans la régulation de la question de la sexualité, de la norme, de la famille. Donc cette question de reproduction sociale, elle est vraiment toujours très racialisée. Donc l'étude de la reproduction sous le capitalisme, sous l'esclavage et après, a connu évidemment, donc pour moi, d'énormes... C'est extrêmement important. Alors dans le féminisme même, le féminisme européen sur cette question est très faible. Hein, je vais faire un rapide rappel des théories féministes sur la reproduction. Et bien que très tôt, d'ailleurs, dans le féminisme européen, il y a des remarques, il y a des réflexions sur la question de la reproduction sociale, sur lorsque la femme est obligée d'être une mère, est obligée d'enfanter. En fait, vraiment, c'est les années 70 qui vont vraiment remettre ça de manière déterminante. On le sait qu'il y a un féminisme qui, en Europe et aux USA, va lutter essentiellement pour la maîtrise de la reproduction, hein, autour de l'avortement et de la contraception, avec les formules comme « mon corps m'appartient », hein, « my body, myself », qui est ce vocabulaire de la propriété et qui n'est pas sans lien, justement, avec cette idée qui avait été de « à qui appartient les enfants, à qui appartient mon corps ». Mais quand, dans cette formulation, il n'y a pas de réflexion sur le fait que des corps n'ont pas été appartenus, non pas parce qu'à cause du patriarcat, mais aussi à cause de la question raciale. Ce n'est pas que le patriarcat qui avait joué dans cette situation. Il y a d'ailleurs des débats hein, assez violents à la fin des années 70, surtout en Italie ou un peu moins en France, sur le fait que dans cette formulation de « my body, myself » ou « mon corps m'appartient », il y a donc, on est dans le vocabulaire de la propriété, et puis surtout dans la demande de loi, en fait, les féministes se tournent vers l'État et se tournent vers la profession médicale pour résoudre cette question. Et donc reconduisent de nouveau des pouvoirs à l'intérieur de l'État. Donc il y a des débats très, très durs, c'est-à-dire au lieu de construire des lieux autonomes, des cliniques de femmes avec des femmes qui recevraient, on se tourne, c'est la profession médicale qui va décider, on le voit d'ailleurs après tous les problèmes que ça va poser, même encore aujourd'hui en France. Donc ça c'est ce féminisme, il y a aussi les féministes matérialistes qui vont justement revoir, on a beaucoup discuté depuis ce matin sur la question de la doctrine, en fait, de la philosophie marxiste. Alors, il y en a quand même énormément. Hein. Il y a vraiment beaucoup de noms. Là, je ne vais pas les citer. Il y a Liz Vogel, il y a Titi Bhattacharya, il y a évidemment aussi Silvia Federici, mais il y en a vraiment d'autres. C'est quand même quelque chose. Il y a une très grosse production du féminisme matérialiste marxiste autour de cette question. Et qui continue d'ailleurs aujourd'hui, très souvent ne va pas intégrer la question raciale là-dedans. Mais elles attirent l'attention sur la production des êtres humains, mais elles regardent surtout la travailleuse hein, qui a lieu hors du lieu de production de marchandises. Elles cherchent à développer ce que Marx n'avait pas étudié, disent-elles, et quelles sont les implications du fait que la force de travail est produite à l'extérieur du circuit de production de marchandises, alors qu'elle est essentielle à celle-ci. Donc là, on est vraiment dans... Mais on ne tient pas compte du tout de comment ça s'était passé sous l'esclavage et sous l'époque impérialiste. Donc c'est vraiment... Elle étudie aussi donc la famille, beaucoup, hein, comment ça se passe à l'intérieur de la famille et comment l'oppression de la femme à travers la famille, et que la femme, évidemment, elle s'occupe de la nourriture, de l'hébergement, du soin psychique, etc. Il faut que l'homme soit prêt pour sa journée de travail, et ces deux fonctions sont assimilées de manière disproportionnée par les femmes, et ce sont les sources, disent-elles, de l'oppression des femmes dans ce système. Ce à quoi des féministes noires et des féministes du tiers-monde des années 70 répondent que votre analyse, je résume, ne tient aucun compte de la racialisation de la sexualité, de la maternité, de la paternité. Elle parle des viols hein, pour la reproduction, mais aussi surtout quelque chose qui est un peu moins étudié en France peut-être, sur l'interdit de faire famille, c'est-à-dire de poser la famille patriarcale comme étant universelle et partout pareille, ne tient pas compte du fait qu'il y a eu interdit de faire famille sous l'esclavage, déjà, hein, bon, évidemment, on le sait, mais aussi même après, hein, puisque dans ce déséquilibre dont je vous ai parlé, et puis les lois différentes pour la France, le code de l'indigénat, les codes de la famille qui vont être tout à fait différents, et donc il n'y a pas, en fait, une famille universelle, patriarcale, ou les femmes. Donc, elle pointe ces questions, surtout sur la question de l'interdit de faire famille, la paternité et la maternité qui sont refusées aux femmes non blanches. Là, on peut renvoyer à l'ouvrage aussi d'Elsa Dorlin, La matrice de la race, qui se passe surtout. Autrement dit, elles disent qu'il y a les féministes de ce qu'on appelait alors le tiers-monde et les féministes noires des Amériques, qu'il y a une longue histoire de la racialisation de la reproduction et qu'on ne peut pas donc faire fi de cette histoire quand on parle de l'esclavage ou de la question de la production. Et il y a cette question de la reproduction qui donc effectivement pose, fait un peu, notamment questionne évidemment les théories féministes, mais même pas seulement les théories féministes, ce qu'on entend par reproduction, ce qu'on entend par richesse, ce qu'on entend qui contribue et comment le ventre des femmes a contribué à l'accumulation du capital. Et pour laisser quand même un peu de temps à la discussion, puisque je sais qu'on est un peu loin, pour moi, déjà 17h, bon. Autrement dit aussi, pour moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir comment ça continue à peser aujourd'hui, hein, cette organisation racialisée de la reproduction sociale, on pourrait dire, hein, pour utiliser ce terme. Comment ça pèse toujours sur les politiques de reproduction? Bon, Mathieu signalait que j'avais travaillé sur la question du contrôle des naissances, hein, le fait qu'il y a depuis les années 50 un énorme intérêt dans les grandes institutions internationales ou les grandes fondations sur les femmes du tiers-monde qui font trop d'enfants et qui seraient donc responsables de la pauvreté et qui aujourd'hui se transforment aussi partout, on le voit. Il y a même le président de la France qui a encore signalé que les femmes africaines faisaient trop d'enfants et que c'était quand même ça qui quand même entretenait la pauvreté. Le rôle aussi des fondations aujourd'hui, comme la fondation Bill et Melinda Gates ou d'autres fondations qui interviennent directement sur cette question et qui, c'est ces femmes-là qui font trop d'enfants et donc il faut aussi sortir ces femmes de leur pauvreté en leur permettant. Donc tout un discours civilisateur. Tout aussi, on peut peut-être aussi revoir la permanence de ce modèle, hein, dans les questions biopolitiques et de recherche médicale. Et d'une certaine manière, la dénaturalisation de la reproduction qui a été défendue par des féministes, hein, qui est d'ailleurs toujours une question très féministe, c'est-à-dire, je sais si vous avez lu Shulamit Firestone dans les années 70, elle proposait la création d'utérus artificiels, hein, que les femmes n'aient plus à faire d'enfants, que ce soit ailleurs, qu'elles soient libérées de ça, hein, qu'elles soient libérées, qu'il n'y ait plus une naturalisation de la naissance. Ce n'est pas naturel que ce soit les femmes qu'il porte, mais on peut aussi trouver aussi dans beaucoup de science-fiction féministe, hein, des reçus de la reproduction qui vont questionner justement les normes du genre et de la sexualité. Mais elle ne tient pas compte, c'est même si c'est toujours très intéressant, de l'histoire raciale de la reproduction. Et d'ailleurs, on peut se poser la question aujourd'hui, puisqu'on parle évidemment post-esclavage, mais le post-esclavage, on pourrait le tirer jusqu'à aujourd'hui, de cette question, comment ce modèle, est-ce qu'il ne reste pas dominant ? D'ailleurs, Alice Eve Weinbaum, dans son livre « The Afterlife of Reproductive Slavery », pose cette question et pense que le capitalisme continue à reposer sur la racialisation et la marchandisation de la reproduction. Donc, le modèle institué par la traite et ensuite l'esclavage. Autrement dit, la manière dont le capitalisme racial a organisé la reproduction est une question sur laquelle il faut se pencher quand on parle de la production. On ne peut pas parler de production sans parler de la reproduction, enfin ce qu'on appelle la reproduction sociale, c'est-à-dire la question de qui font les enfants, qui s'en occupe. Et donc, dans la question en dehors de sous l'esclavage et ensuite l'esclavage, le rôle qu'a joué le ventre des femmes non blanches dans cette exploitation constante. Et qu'on pourrait discuter aujourd'hui dans la question de qui fait le travail ou qui s'occupe des enfants encore aujourd'hui. Donc, comment est cette question de capitalisme et esclavage, quand on introduit la question, évidemment, pas seulement raciale, mais la question de ce qu'on appelle le genre, et qui encore pose une question, d'ailleurs, si c'est le genre, on peut avoir une autre définition de ce que c'est que la richesse, l'accumulation de la richesse et la question même du capital. Parce que c'est le capital, puisque le ventre des femmes a été un capital et que leurs enfants, les enfants des femmes non blanches, a été un capital sur lequel, je le disais, ça spéculait et ça marchandait. Et on le sait que les femmes, qui étaient d'ailleurs sur les bateaux, étaient souvent violées pour que ça coûte mieux. Et donc là, évidemment, je n'en veux pas parler de tout ce que la résistance des femmes à tout cela, la résistance des femmes esclaves, mais on le sait, elles ont résisté en avortant, en tuant leurs enfants, en refusant, enfin, toute une série de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, aussi, on voit, dans certaines colonies, il va y avoir tout un contrôle sur les plantes qu'utilisent les femmes esclaves, parce qu'elles connaissaient les plantes abortives et que donc elles pouvaient avorter. Donc, on peut voir, à partir de là, on peut tirer plusieurs fils, qui sont plusieurs fils à la fois dans la résistance même, et la manière de faire famille, qui n'a pas été la même que la manière de faire famille occidentale, bourgeoise, pour parler ainsi, et qui peut aussi nous offrir d'autres modèles aujourd'hui sur cette question, à la fois de faire famille, de faire de la reproduction et d'élever les enfants. Merci.
Avez-vous des questions ?
Moi, j'avais une question sur l'océan Indien. Je travaille sur l'océan Indien. Et c'était en fait par rapport au schéma général que vous avez dressé. Quelle serait la particularité de l'océan Indien, en particulier de la Réunion, mais peut-être d'autres territoires ? Enfin, comment vous...
C'est l'importation, voilà. La Réunion. C'est vraiment l'importation qui va être choisie. Il y a très peu de reproduction locale, si on peut parler ainsi. Et quand vous regardez les archives, mais il y a des discussions entre propriétaires. Ils se posent la question, est-ce qu'on fait de la reproduction locale ou est-ce qu'on fait n'importe. Et conclusion, c'est que la reproduction, on perd pas nécessairement de l'argent, on perd de l'argent, mais aussi du temps. On ne peut pas mettre un bébé à travailler. Et même si on fait travailler la femme enceinte jusqu'à la dernière minute, après, quand même, il y a toujours un moment. Donc, le choix va être vraiment l'importation. Et le déséquilibre à La Réunion va être très important. On parle, d'après les démographes, l'équilibre femme-homme dans la population non blanche est atteinte seulement à la fin du 19e, début du 20e siècle. Pour que vraiment, là, et d'ailleurs, après, on peut voir, je veux dire, il y a toutes les politiques de contrôle de naissance, mais ça, tu le sais aussi pour les Antilles, enfin, tout ce qui va être posé. C'est-à-dire que là où finalement il y a une angoisse beaucoup sur assurer la reproduction de la force de travail, tout d'un coup, après la Deuxième Guerre mondiale, on va parler de surpopulation pour ces anciennes colonies.
Ce qui me semble intéressant, enfin je continue, c'est peut-être du commentaire là, c'est que c'est une région sur laquelle on avait d'ailleurs mis un focus à un moment donné, il y a 2 ans je crois, dans MCTM. Donc MCTM c'est surtout le paradigme caribéen défini par Christine, et qu'on explore, mais moi je l'explore un petit peu du dehors et je trouve que l'intérêt de... la comparaison avec l'océan Indien, c'est que l'océan Indien, c'est une zone, il y a un enchevêtrement entre des formes de domination différentes, hein, avec des servitudes souvent complexes et de longue durée, en fait. Hein. Et la Réunion n'est pas dans un vase clos, me semble-t-il, parce qu'effectivement, il y a des populations qui sont importées. Alors, peut-être la différence, évidemment, vous connaissez ça par cœur, mais avec l'Atlantique, c'est que les distances ne sont pas très longues. Ben oui. Parce que c'est Madagascar, hein, c'est le Mozambique, etc. Mais il y a aussi en fait, des Réunionnais qui, à différentes époques, sont allés dans d'autres territoires, en particulier Madagascar, un peu avant l'époque coloniale, et surtout à l'époque coloniale. Et donc c'était un des exutoires de la question sociale. Et donc il y a une sorte d'aller-retour permanent entre ces différentes îles qui complexifie finalement peut-être le schéma que vous mettez en avant, parce que des formes d'exploitation... De la main-d'œuvre dont parlait aussi Jean-Pierre Sainton, ce rapport terre, etc. On peut le trouver dans des sociétés non européennes de cette zone. Alors évidemment, ça ne sera pas suivant un schéma plus européen, ça sera peut-être d'autres modalités. La difficulté en particulier des esclaves et ensuite des après l'abolition, l'époque coloniale, l'esclavage, la difficulté d'accéder à des terres. Ça, on le retrouve aussi dans des sociétés qui ne sont pas occidentales, mais qui sont colonisées, fin du 19e siècle. Donc, en fait, ma question, c'était un petit peu pour peut-être complexifier un peu le schéma dont vous parliez de manière un petit peu globale, parce que c'est une région laboratoire, en fait, hein, je pense, de cette complexité, dans le sens où il y a des historicités enchevêtrées qui
Oui, mais si on prend les colonies européennes... Moi, je fais une distinction quand même entre les colonies européennes de plantation, avec tout un système, une loi, et les sociétés où il y a des formes de servitude. Je ne les mets pas du tout sur le même plan. Je ne mets pas du tout la colonisation française de l'île de la Réunion ou de l'île Maurice, ou des Seychelles ou des Comores, sur le même plan de ce qui s'est passé à Madagascar ou au Mozambique dans les formes d'esclavage. Et les gens qui sont, les Réunionnais qui sont allés à Madagascar, c'est essentiellement des petits blancs qu'on envoie pour notamment après l'abolition, pour la question de la pauvreté, pour aussi, entre autres, entraver les solidarités avec les nouveaux affranchis, pour aussi coloniser Madagascar, parce que c'est très important de coloniser Madagascar. Et qu'il n'y a pas assez de colons qui viennent, et que donc ces Réunionnais, il y en a aussi qui seront envoyés d'ailleurs en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Le fait d'envoyer aussi des personnes de colonies contribuer à la colonisation, ça se voit aussi, ça se voit plus tard. Donc je ferai de toute façon une différence entre les colonies européennes d'esclavage et les sociétés où il y a effectivement des formes d'esclavage et de traite, c'est-à-dire Mozambique, Madagascar... par exemple, puisque c'est là que ça se passe. Mais on sait aussi que, d'ailleurs, dans cette zone de l'océan Indien, les esclaves venaient de toute la région, puisqu'on retrouve dans des archives des esclaves qui viennent de Malaisie, du Yémen, puisque vraiment, ça traînait. Donc, on n'est aussi pas du tout dans le même schéma qu'évidemment pour l'Atlantique, ça c'est une chose. Et d'autre part, l'île Maurice et la Réunion, évidemment, sont différentes, dans des histoires différentes, à un moment, bon, puisque l'abolition à l'île Maurice, puisqu'elle devient anglaise. La question des Comores ou la question de l'archipel des Chagos, ça va être aussi autre chose. Donc, on a des situations, effectivement, locales. On est beaucoup moins dans un truc Caraïbes, les Caraïbes. Mais en même temps, la question de la déportation, la question de du déséquilibre entre femmes et hommes dont j'ai parlé, elle est là à l'île Maurice, elle est là à La Réunion, sous le système français, elle est là aux Seychelles, sous le système français. Madagascar, après, devient une colonie française, mais c'est après l'abolition de l'esclavage. Et de toute façon, la question là, c'est que Gallieni abolit l'esclavage et impose le travail forcé. Donc les formes, ce que je veux dire, c'est que les formes de travail qui vont être imposées par les régimes coloniaux vont aussi s'adapter à des moments précis. Et d'ailleurs, donc la propagande pour Gallieni, c'est de dire qu'il a aboli l'esclavage à Madagascar. Il installe et il institue aussitôt le travail forcé. Donc toutes ces questions se passent évidemment dans ce moment-là. Et dans l'océan Indien, il y a des circulations aussi évidemment, entre les colonies. Puisque à La Réunion, après, on va... Le pouvoir esclavagiste va essayer aussi d'amener des canaques, va amener la question étant de retrouver une force de travail qui va travailler dans les plantations, en plus de ce qui est des affranchis. Donc, ce qui se passe à Madagascar, je ne mettrai pas sur le même plan.
Non, l'idée, ce n'était pas forcément de mettre sur le même plan, mais c'est de dire que, peut-être contrairement aux Caraïbes, peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, là, on a une région, appelons-la comme ça, où on a une sorte d'enchevêtrement hein, de formes de domination et de domination des corps aussi, qui effectivement ne sont pas totalement comparables, mais qui s'ajoutent, surimposent les unes aux autres. Et donc, on n'est pas seulement dans une sorte de face-à-face blanc-noir, on est dans une situation beaucoup plus complexe, en fait. Hein. C'est ce que
à
je.
La Réunion, c'est
et ce que je. Ben, oui, ben, alors, par exemple, voyez, vous voyez, on pourrait reprendre chaque point, on n'aura peut-être pas le temps, puis je ne vais pas monopoliser la parole, mais quand vous dites, par exemple, ce qui est globalement juste, avec la colonisation, voilà, on envoie des pauvres blancs, ce n'est pas forcément vrai. Hein, c'est ce qu'a montré par exemple Claude Bavou, hein, les Réunionnais à Madagascar. Ben, voilà, c'est pas forcément que des gens blancs qui sont vus comme blancs. Dès les années 1850, donc juste après l'abolition, en fait, il y a une étude qui a montré par exemple que Tamatave, qui est très lié à la Réunion, eh bien, accueille des Réunionnais pauvres et qui ne sont pas blancs. Hein, et donc en fait.
Excusez-moi, oui. La question que vous me posez, c'est que vous trouvez que je fais trop blanc-noir, c'est ça?
Parce oui,
que
c'est
sinon,
pour dire...
je veux dire, sinon la question de des différentes formes de servitude ou des différents aménagements, on le trouverait dans la région Caraïbe. Je suis sûre qu'il y a des historiens des Caraïbes ou des étudiants, des gens qui étudient les Caraïbes, qui pourraient donner la même chose.
Donc, je ne suis pas sûr, en fait. Ce que je suis en train de dire, c'est que les formes de domination esclavagiste dans les plantations sont comparables, Réunion, Maurice et les Antilles. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que sur la côte est africaine, à Madagascar, aux Comores, etc., il y avait aussi, avant la colonisation, des formes de servitude qui pouvaient être très dures.
De la même manière,
voilà.
Dans la
Moitié d'Afrique, pour certaines, bien sûr, tout à fait, et qui, pour certaines d'entre elles, continuent de se maintenir, parfois déguisées, malgré les abolitions, et jusqu'à aujourd'hui. Et ça, vous le savez aussi. Donc, c'est pour dire que c'est une région, il me semble, qui est tout à fait intéressante à observer, mais là, je trouve que c'est un peu... Enfin, on n'est pas encore à la conclusion, mais... c'est quand même un plaidoyer, en fait, je trouve, cette journée pour un tas d'études, un tas de recherches, un tas d'études sur des points particuliers sur lesquels on achoppe parce qu'il nous manque parfois en fait, des éléments. On pourra peut-être
non, mais
y revenir.
De la reproduction sociale, c'est-à-dire le fait de qui fait les enfants, qui s'en occupe et comment la les esclavagistes vont se soucier de cette reproduction. Je ne parlais pas des formes, je parlais. Et ça, ça va être organisé, c'est pensé. Je ne suis pas rentrée dans les détails des archives, mais il y a des débats. Il y a les gens y pensent, je veux dire, les esclavagistes y pensent. Je veux dire, c'est, évidemment, ils ont un souci de comment ça va se passer. Ils ne sont pas simplement... Et donc, et le rôle, le fait que le corps des femmes noires devient un capital, ou des femmes non blanches après, les femmes, c'est un capital sur lequel on spécule, sur lequel on vend. Je veux dire, ce n'est pas simplement le corps travailleur, c'est le corps producteur.
Mais je voulais d'abord te remercier, sans flagornerie. J'ai trouvé très, très intéressant. Et je pense que, bon, s'il devait y avoir un débat, là, ça me rappelle les débats de notre ancien laboratoire, Didier, hein, entre les formes de colonisation. J'entends encore mes collègues africanistes me dire « Ah, mais toi, tu ne travailles pas sur des régions de colonisation, les Amériques. » Alors, ce n'est pas toi, hein, Didier, hein, que je remets en cause, mais c'est les Amériques, c'est extrêmement particulier. C'est extrêmement particulier parce que tout démarre. Je me souviens d'une conversation qu'on avait eue à un séminaire, on était ensemble à Oxford sur la tabula rasa. Est-ce que, oui, et ça, déjà, ça fait une très, très grosse différence. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je voulais juste te dire que c'est très souvent que ça crée un effet surprise. Je le vois dans mes interventions et tout ça, de rappeler qu'il y a eu aux États-Unis, alors, j'aime pas ces chiffres, 500 000 esclaves qui sont entrés. Il y en avait 4,5 millions à la veille de l'abolition. Et ce que l'on appelle de ce nom infâme, qui est celui qui est retenu, l'esclavage d'élevage, nous ramène, c'est vrai, à ces corps, à cet usage des corps et à ce capitalisme, effectivement, qui passe par l'usage des corps. Et ça me rappelle un texte dont je trouve que c'est d'une injustice, de Thomas Holt, qui est un auteur qui a travaillé beaucoup sur la Jamaïque et qui avait écrit un article sur la pensée de Foucault, le biopouvoir. Dans un colloque de grands spécialistes de Foucault, on n'était pas encore à l'époque de Anna Wanstoller, qui réclame la pensée de Foucault pour penser le colonialisme, puisque grosso modo, Foucault n'a pas pensé le colonialisme. Et lui qui nous donne vraiment, à partir de cet usage des corps, une démonstration du biopouvoir à travers l'esclavage et qui se fait mais ramasser littéralement par des grands spécialistes. Eh ben, alors moi j'ai le livre, hein. J'ai les commentaires et j'ai trouvé encore une fois, je termine, j'ai trouvé encore une fois notre grande difficulté à aborder cette histoire de l'esclavage, de la racialisation, de ce que l'on pourrait appeler effectivement le capitalisme racial, de cet usage des corps. Et encore une fois, j'ai vu exactement comme pour le terme de diaspora qui a l'air tout à fait banal. Cette hiérarchisation, parce que là, ça va, diaspora, c'est passé dans le... On peut appeler aujourd'hui la diaspora noire, le monde noir des Amériques, on peut appliquer le terme de diaspora. Quand j'ai commencé ce métier dans les années 80, c'était proscrit. Il y avait une hiérarchisation des populations au travers des concepts. Et je dis qu'au travers de la notion de biopouvoir, quand Thomas Holt a utilisé le terme, il y avait une hiérarchisation des populations à travers nous et nos usages des concepts. Voilà, c'est tout le, tu me fais... Voilà. Mais il peut y avoir contradiction, hein. C'est un débat.
Oui, c'était à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, et ça a été publié à ENS Éditions, le débat. Et donc le débat en fait a porté sur la question que Tom a avancée de la comparaison avec la question du génocide de la Seconde Guerre mondiale. Et le débat a porté là-dessus. Simplement, puisque j'ai le micro, je peux poser une question. Voilà. Moi, je voudrais dire que je trouve qu'il faudrait revoir un tout petit peu la présentation de la question des féministes des années 70, parce que je pense que les féministes matérialistes, en particulier, ont vraiment, ce qu'elles ont avancé, c'est le lien entre production et reproduction. Et ça, c'était la base de la chose. Et puis qu'un certain nombre d'organisations féministes se sont prononcées aussi sur la façon dont étaient traitées les femmes dans les tomes, c'est comme ça que les textes sont, et en particulier dans la charte du MLAC de 1973, il y a une mention spécifique sur la façon dont sont traitées les femmes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la demande sur contraception et avortement, mais aussi en précisant qu'il y a d'autres politiques qui sont appliquées dans les territoires d'outre-mer et se prononçant contre justement un certain nombre de politiques dans ces départements. Et pour la complexité de la chose, aux Antilles, il y a eu un certain nombre d'associations de planning familial et de contraception qui ont été créées par des Guadeloupéennes et par des Martiniquais, des Martiniquaises locaux, si je peux dire, pour se préoccuper justement de la situation des femmes et de la question de la contraception. Voilà.
La question de ce contrôle des licences des avortements forcés est posée déjà dans les Outre-mer eux-mêmes par les mouvements des femmes avant. C'est pas pour dire que ce que le MLAC a fait n'était pas nécessaire, mais c'est juste pour redonner à ces femmes leur capacité d'agir. Et d'autre part, sur cette question, donc ça c'est une chose, je pense, extrêmement importante. Et c'est vrai que bon, j'ai parlé des féministes matérialistes qui posent cette question du patriarcat et de la famille, mais je disais simplement que d'autres, d'ailleurs, ont travaillé sur cette question, c'est qu'il y a eu un interdit par famille et qu'on ne peut pas parler de la famille comme une structure universelle la même partout. Voilà, et que les aménagements, moi j'ai vu l'intervention de l'État sur des aménagements qui n'étaient pas des aménagements de famille patriarcale bourgeoise, parce que ça ne rentrait pas dans les normes. Sur la question des Guadeloupéens, Martiniquais ou Réunionnais qui ont contribué, oui, ben à la Réunion, de toute façon, c'était les assistantes sociales réunionnaises qui envoyaient les femmes dans ces cliniques pour se faire avorter, ou c'est les assistantes sociales, parce que justement, le pouvoir a compris qu'il fallait aussi des personnes qui parlent créole, parce que les Français, ça n'aurait pas marché. Il fallait qu'elle parle créole, qu'elle puisse rentrer du coup dans les familles. Et j'ai relu des interventions, des interviews de certaines d'entre elles. Évidemment, qu'est-ce qu'elles voyaient ? Une misère terrible, des femmes qui avaient 11, 12 enfants, donc elles voulaient intervenir pour sauver. Et ce n'est pas de ça que je parle. Et ça, évidemment, elles l'ont fait en toute sincérité. Mais il y avait une politique gouvernementale qui était de ne pas résoudre du tout les questions économiques, de ne pas du tout résoudre les questions sociales qui se posaient, et d'y répondre par l'immigration et le contrôle des naissances. L'immigration, ça a été le bumidome, le contrôle des naissances, ça a été toutes ces distributions aussi, d'ailleurs aux Antilles, mais aux Antilles, c'est juste, très rapidement, ça a été beaucoup plus l'immigration, d'ailleurs, qu'à La Réunion, pour des raisons X et Y, et encore plus qu'en Guyane, où le nombre de personnes emmenées par le bimidome a été moindre. Mais les Antilles, c'est en quelques années, il y a énormément, énormément de femmes et d'hommes qui partent, mais surtout de femmes. Et justement, là, il y a un nouveau changement, il y a une féminisation, on peut dire, de l'immigration qui se passe. Donc là, effectivement, il y a des tas de petites choses dans lesquelles il faut être plus précis, tout cela. Mais je disais, moi, ce que j'ai voulu dire là, c'était que la question de la reproduction, de ce qu'on appelle la reproduction, quand on parle de capitalisme, de la question du capitalisme, c'est-à-dire de la question de la création de richesses, il faut réintroduire la question de la reproduction sociale, pas simplement dans la question justement de la femme qui fait la cuisine et qui s'occupe de son mari, mais dans cette racialisation de la reproduction qui a été instituée par les puissances esclavagistes.
Oui, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question à vous poser qui est en fait une sorte de demande d'aide. Vous parlez donc de racialisation, de la difficulté, de l'impossibilité de faire famille en fait pour les femmes esclaves. Et je me demandais en fait si dans les corpus que vous avez lus, vous avez des réflexions qui vous amènent à penser ce même processus. Enfin. En tout cas, du côté des femmes propriétaires d'esclaves. C'est-à-dire, comment est-ce que cette interdiction de faire famille pour les femmes esclaves, comment est-ce que ça se répercute du côté des femmes propriétaires d'esclaves qui font des enfants ? Bon, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose que pour les femmes esclaves, mais comment, en fait, la question de la famille se transforme par cette racialisation ? Je ne sais pas si je suis très claire.
Oui, je vois ce que vous dites.
Mais voilà, comment est-ce qu'on peut penser en fait, le cadre de la famille, surtout blanche, dans ce contexte d'esclavage ? Parce que c'est une question que je me pose et je n'arrive pas trop à penser là-dessus.
Il y avait une différence. Les femmes blanches pouvaient faire famille. Je ne suis pas sûre de comprendre votre question.
En fait, c'est par exemple, les enfants blancs sont élevés par les dalles et donc les domestiques. Mmh. Et en fait, quels sont les, dans le mécanisme de reproduction, comment est-ce que ce contexte pèse sur elles? Parce qu'elles ont l'obligation de faire famille, mais est-ce que ce serait, selon vous, la même chose, par exemple, que la famille bourgeoise traditionnelle en France à la même époque? C'est-à-dire, est-ce que le contexte colonial transforme la famille des colonisateurs sur place, et est-ce que ça la transforme en autre chose que le modèle bourgeois du 18e ou 19e siècle? Enfin, moi, je parle plutôt pour le 19e siècle. Est-ce que ça le transforme en autre chose que ce que ça peut être en métropole à la même époque? Moi, c'est la question que je me pose, et voilà, comment...
Je vois ce que vous dites. Bon, la famille bourgeoise en Europe, elle prend aussi du temps à s'imposer. Il faut aussi donc détruire d'autres formes de faire famille. On le sait, l'hygiène, la répression, qui est la bonne mère, qui est le bon père, ça met du temps à s'imposer. Donc il y a l'image de la bonne paternité, de la bonne maternité. Parce que c'est pas, l'interdit n'est pas simplement envers les femmes, c'est envers les hommes. Les hommes n'avaient absolument pas le droit d'être pères. Les hommes noirs n'avaient absolument pas le droit d'être pères. Et ensuite, même dans le monde colonisé, il y a une difficulté à être père. Vous pouvez être, votre fonction paternelle, vous la faites à la maison, mais vous la faites pas dehors. Je veux dire, dehors, vous êtes encore un homme noir ou un homme arabe, quoi. Et donc, vous serez. Donc, tout ça a été vraiment étudié. Je pense que, si vous voulez, la question, il y a eu des études là-dessus, mais ça demanderait une plus longue réponse, parce qu'il y a, ce qui se passe, le fait que les hommes blancs utilisent les femmes noires comme objet sexuel, le fait que la question, les femmes blanches n'ont pas de droits civiques du tout dans les colonies comme en Europe, mais elles ont quand même le droit de posséder des êtres humains. Elles ont le droit, je veux dire, ça fait une énorme différence. Donc l'accès à la propriété privée est possible, même s'il n'y a pas d'accès à l'éducation ou des choses comme ça. Donc il faudrait, mais que la famille ait énormément changé, que ça ait beaucoup changé, pas vraiment, je pense pas vraiment. Simplement, si vous voulez, quand on lit, alors là c'est le 19e, la fin du 19e plutôt, pour la France, mais Catherine pourrait répondre pour le monde anglais, il y a cette idée que les femmes des colonies sont différentes, parce qu'elles connaissent ces populations et donc elles peuvent témoigner, elles ont une connaissance qui fait qu'elles deviennent des expertes, plus que... Et ça va leur donner une certaine place dans certaines organisations féministes de l'époque, parce qu'elles vont pouvoir parler au nom de ces femmes, de ce qui est bien pour elles. Donc ça, on le voit dans certains congrès féministes de la fin du 19e siècle. Mais il faudrait... La question que vous posez était intéressante, mais il faudrait une beaucoup plus longue réponse, que je vous donne beaucoup plus d'éléments. C'est, parce que ça change, évidemment, au 19e siècle, ça dépend où, quoi, et puis ça change avant l'abolition de l'esclavage et après l'abolition de l'esclavage, au moment où s'installent des codes de l'indigénat ou pas, est-ce que c'est en Nouvelle-Calédonie ou est-ce que c'est en Algérie, c'est très différent. Mais il y a, de toute façon, oui, la question de la femme coloniale, post-esclavage, va donner lieu à énormément de formulations, de qu'est-ce qu'elle doit être, comment elle doit faire, comment elle doit se comporter. Mais Anne-Laura Stoller a fait un peu, mais elle, pour les colonies hollandaises, mais sur cette question d'une sexualité beaucoup plus surveillée aussi, que l'interdit est très, très, très important, des relations sexuelles avec des hommes non blancs, c'est l'interdit suprême. Donc il y a plusieurs choses qui pèsent. Et celles qui transgressent cet interdit, celles et ceux qui transgressent cet interdit sont extrêmement punis.
Je vais me permettre de poser une question avant qu'on passe à la discussion. Enfin, je ne sais pas trop comment la formuler. Ça serait plus ou moins la suivante. Dans quelle mesure ces réflexions sur la reproduction racialisée et genrée a pu aussi renouveler, parce qu'il y a des travaux là-dessus, les réflexions sur la production elle-même? Et sur la racialisation genre réel aussi de la production, je pense à ça parce qu'en fait il y a un texte que j'aime beaucoup d'Angela Davis qui doit dater de 71 je crois, qui s'appelle The Black Woman's Role in the Community of Slaves, où là on a quelque chose d'intéressant qui a disparu ensuite, mais c'est des phénomènes d'époque aussi sûrement, où il y a une réflexion à la fois sur la place des femmes esclaves dans la reproduction et encore dans la production, le fait qu'elle travaille. Alors après, c'est les années 70, c'est vraiment encore un peu l'influence peut-être derrière ça. Simone de Beauvoir, avec l'idée que les femmes doivent aller au travail et en fait trouver dans les esclaves la femme qui travaille. Mais bon, ça, dans un autre type, est-ce qu'il y a eu des réflexions sur la production racialisée et genre,
Oui, il y a des choses, surtout aux États-Unis, beaucoup, un peu aussi du Brésil. Il y a des choses sur cette... C'est-à-dire un réintérêt aussi à ce qu'ont joué les femmes noires dans les plantations. Et la question du travail, ça a aussi nourri une réflexion dans les années 70 après, du fait de réclamer de ne pas travailler au moment où les femmes blanches, pour parler ainsi, réclamaient, elles, d'entrer dans le monde du travail comme une libération, comme une émancipation. Il y a des textes de féministes noires qui disent « Mais pour nous, c'est certainement pas la libération parce que ça fait des siècles qu'on travaille et qu'on est exploité. » Donc la question, oui, du travail racialisé et des assignations à tel ou tel travail, il y a des textes et il y a aussi des textes de féministes brésiliennes là-dessus qui sont intéressante, c'est-à-dire sur la question comment effectivement la production et reproduction, mais comment aussi très souvent ces deux champs s'enchevêtrent fortement pour les femmes racisées.